L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'extase du papillon, votre émission hebdomadaire estivale consacrée au monde du haïku, au grand maître du haïku. Depuis 3 semaines, nous étions avec Kobayashi Issa. Eh bien, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des très grands maîtres qui précède même Kobayashi Issa, puisque Yosabu Son, dont nous allons parler, est né en 1716 dans le village de Kema, au bord de la rivière Yodo, près d'Osaka. C'est à 10 lieues au sud-ouest de Kyoto, la vieille capitale où résidait alors l'empereur. Cette émission sur Yosabu Son est largement inspirée du livre paru aux éditions Mundaren, Le parfum de la lune, Buson, maître de haïku. Buson est élevé dans une famille de fermiers. Il est encore enfant quand ses parents meurent. Peu désireux de prendre en main le domaine familial, il quitte son village natal à l'âge de 20 ans pour se rendre à Edo, le Tokyo d'alors. Siège du gouvernement militaire du shogun à l'époque, une ville en pleine expansion où souffle un vent de liberté. Et Buson a pour intention d'étudier à Edo la peinture et la poésie, plus particulièrement la forme brève dite Haikai, appelé par la suite Haiku grâce à Masaoka Shiki, dont nous reparlerons, porté donc à son apogée poétique par le vieux maître Basho, mort en 1694. À l'âge de 21 ans, Buson devient le disciple de Ayano Soa, de 40 ans son aîné, poète excentrique en renom, disciple de Kikaku et de Rantsetsu, qui étaient eux-mêmes disciple contemporain de Basho. Buson s'installe dans la maison de Soa, baptisée le pavillon de minuit. Mon maître habitait dans le quartier de Kokusho à Edo, près de la tour de la grande cloche, se contentant d'une vie humble et oisive. Par une nuit de gel, tirée du sommeil par le son de la cloche, bien qu'avec l'expression hébétée d'un vieillard brusquement réveillé, il se mit à me parler du haïkai. « Dans la voix du haïkai, me confia-t-il, il convient de ne pas adhérer aveuglément au style d'un maître et de continuer sans se préoccuper de savoir si l'on est traditionnel ou novateur. » Je compris alors la liberté à l'œuvre dans le haïkai. À Edo, Buson consacre beaucoup de temps à peindre. Il étudie les styles de peinture de la dynastie Song, âge d'or de la peinture chinoise, notamment le style dit peinture de lettré, ainsi baptisé par le grand poète et peintre Sutungpo, qui vécut au XIe siècle. Buson se penche aussi avec un vif intérêt sur la philosophie chinoise classique, taoïste, confucienne et bouddhiste, et s'imprègne de la grande tradition poétique chinoise des dynasties Tang et Song. Son activité créatrice proprement dite s'exprime déjà tant dans la peinture que dans la composition de poèmes du style haïkai. En 1742, son maître en poésie, Soa, meurt. Buson perd là à la fois son parrainage professionnel, son soutien financier et un gîte confortable. Il se rend d'abord à Yuki, à 10 lieues au nord d'Edo, invité par son ami Ganto, l'un des disciples majeurs de Soa, autour duquel s'est formé un cercle de haïkai. « Je me consacre à la composition de haïkai jour et nuit », écrit Buson, qui participe alors à de fréquentes réunions poétiques. Maintenant âgé de 26 ans, Buson se met à pérégriner dans la campagne autour d'Edo et à Oku, le Nord profond où Bachaud a voyagé 50 années plus tôt avant de rédiger son célèbre journal de voyage « L'étroit chemin vers le Nord profond », un chef-d'œuvre du haïbun, c'est-à-dire un texte mêlant haïku et prose. Busan monte jusqu'au nord du Honshu, le long de la côte de la mer du Japon, et redescend par la côte de l'océan Pacifique. Le voyage est difficile, la faim le tenaille, il souffre du froid et de la chaleur et tombe même malade en chemin. Il est de retour à Yuki un an plus tard, et c'est alors qu'il prend pour la première fois comme nom de plume Busan, ce qui signifie « village abandonné », par nostalgie pour son village natal, Kema, qu'il n'a pas revu depuis 10 ans. Le premier haïku qu'il signe de son nouveau nom est celui-ci. Dans ce jardin antique, le rossignol chante toute la journée. Dans ce jardin antique, le rossignol chante toute la journée. Au début de l'hiver 1751, après 10 années de pérégrination continuelle, Busan retourne s'installer à Kyoto. Il a 35 ans. Son intention est d'étudier la peinture de façon intensive pour devenir peintre professionnel. À Kyoto résident de nombreux maîtres et l'on a accès à de nombreux chefs-d'œuvre. C'est par ses amis poètes que Busan est introduit dans le milieu des peintres de Kyoto. Nous sommes au printemps 1754. Busan va se fixer dans le village de Miyazu, dans une région au paysage pittoresque, au bord de la mer du Japon, au nord-ouest de Kyoto. Il loge au temple Kenchō-ji et devient moine laïque de l'école bouddhiste de la Terre pure, Jodo, qui a pour pratique particulière la psalmodie de la phrase sacrée Namu Abhida Butsu, Namu Amida Butsu, salut au Bouddha à la lumière infinie. Vous vous souvenez peut-être que Issa lui-même avait adhéré au courant de la Terre pure et ça a été le cas de nombreux poètes de haïku. Shiyoni notamment, la bonzesse et haijin de japonaise, était une nonne bouddhiste de l'école de la Terre pure. Au temple Kenchō-ji, Busan se lie d'amitié avec le moine Chikukei, du même âge que lui, grand amateur de haïkai, un homme insouciant au comportement excentrique. À Miyazu, Busan se consacre à la peinture. À travers l'œuvre de Hyakusen, il commence à pratiquer le style Nanga, peinture de l'école du Sud, aussi appelée Bunjinga, peinture de lettré, expression japonaise de l'œuvre des poètes-peintres chinois du XIe siècle, introduit au Japon au XVe par les moines zen de retour de Chine. Ce style, en réaction à l'académisme dominant, fait la part belle à l'intuition artistique et à la spontanéité créatrice. La peinture doit être l'expression de l'accord de l'artiste au cours des choses. Busan est de retour à Kyoto 3 ans plus tard, à l'automne 1757. Il a désormais acquis un certain renom en tant que peintre et gagne maintenant sa vie, même si c'est de façon modeste, dans l'exercice de cet art, notamment en réalisant sur commande des peintures de paravent. À 45 ans, artiste reconnu, Busan se marie avec une jeune femme prénommée Tomo, originaire de la campagne. Une fille, Kuno, naît bientôt de leur union. À la demande des autres disciples de son maître en poésie Soa, Busan s'implique dans la création d'un nouveau groupe de poètes de haïkai qui prend pour nom Sanka, du nom de la maison de Busan. La première réunion a lieu durant l'été 1766. Deux autres éminents poètes y participent, Teiji, un joyeux vivant, amoureux du vin et des femmes, et Shoa, qui, lui, préfère passer son temps dans les temples et les ermitages. Dans les conversations de la table à thé de Yahantei, Busun relate sa rencontre avec son disciple Showa. Je rencontrais Showa dans sa villa du faubourg ouest de Kyoto. Il m'interrogea sur le haïkai. Je lui répondis, l'essence du haïkai est d'utiliser l'ordinaire tout en s'en libérant. Se libérer de l'ordinaire est des plus difficiles. Un moine zen célèbre demandait quel bruit fait une seule main en train d'applaudir. Le zen et le haïkai se rejoignent dans la manière de se libérer de l'ordinaire. Showa comprit et questionna à nouveau. Ce que tu dis, maître, sur le fait de se libérer de l'ordinaire est profond, mais requiert un prodigieux effort. N'y aurait-il pas un chemin plus aisé pour se libérer de l'ordinaire? Je lui répondis. Il en existe un, en effet, lire la poésie chinoise. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Va trouver Kikaku, poursuivis-je. Rends visite à Rantsetsu, récite Sodo, accompagne Onitsura, rencontre ses quatre maîtres de jadis chaque jour, éloigne-toi du marché, flâne au milieu des arbres, tiens banquet près d'un torrent de montagne, jouis d'une conversation avec du saké. Et plus que tout, il est important de ne rien préparer à l'avance pour composer un poème. Passe les journées de cette manière en compagnie de ces quatre maîtres de jadis. Comme avant, continue à entretenir un état d'esprit vacant et à jouir de la beauté de la nature. Ferme les yeux et compose un poème. Quand tu en as attrapé un, ouvre les yeux. Soudain, les quatre maîtres sont partis, disparaissant en quelque endroit inconnu. Te voilà seul, en extase. Le parfum des fleurs arrive avec la brise. Le reflet de la lune semble flotter sur l'eau. Tu viens d'entrer dans le royaume du haïkai. En automne de la même année, Busun se rend à pied en compagnie d'un ami en pèlerinage poétique dans la province de Sanuki, dans le Shikoku, séjournant notamment à Suma, au bord de la mer. Il est de retour au cours de l'été 1768, enchanté de retrouver ses amis poètes du groupe Sanka. Les réunions du groupe ont lieu toutes les deux semaines et Busun y participe régulièrement. Au bout de deux années de ce genre de rencontre, les autres membres, impressionnés par son aura poétique, demandent à Busun de devenir officiellement le chef de file du groupe, lui donnant ainsi son identité vis-à-vis de l'extérieur. Il lui suggère de se déclarer publiquement maître de haïkai et de prendre pour nom de plume Yahantei, pavillon de minuit, en hommage à son défunt maître Soa. Ce qu'il accepte de faire au printemps 1770, à l'âge de 54 ans. Au cours de l'été, le groupe Sanka devient le groupe Yahantei. Busun est maintenant le peintre le plus estimé de Kyoto, ainsi que le chef de file des poètes de la vieille capitale. En peinture, il se consacre à la pratique du style Nanga, qui par des coups de pinceau libres cherche à décrire des scènes poétiques détachées de l'utilitarisme mondain. Avec un autre peintre influent du style Nanga, Teiga, il publie en 1771 un album de peinture intitulé « 10 plaisirs et 10 avantages de la vie champêtre » inspiré de la série de poèmes du poète chinois Lu Yu qui porte le même nom. Les peintures de Busun décrivent la vie dans une hutte en montagne au cours des quatre saisons. À la fin de l'année 1771, meurent deux de ses éminents disciples, membres fondateurs du groupe Yahantei. Il s'agit de Teiji et de Showa. En 1772 est publié « Lumière de la neige », un recueil de haïkai de Busun et de ses disciples du groupe Yahantei. La nuit suivante sont publiés « Dans les environs », puis « Un corbeau à l'aube ». En été et automne 1774, Busun compile trois recueils. « Évocation du passé », un recueil de haïkai pour commémorer le 33e anniversaire de la mort de son maître Soa. Un recueil de poèmes de Basho et le recueil des plantes aquatiques, une anthologie de 450 haïkus composés par des femmes et préfacés par celle dont je vous ai parlé il y a quelques instants, Shio Ni, la célèbre bonzesse poétesse. Jusqu'à l'âge de 60 ans, Busson vit dans une relative pauvreté. Il sait s'accommoder d'une vie certes humble, mais qui lui permet de se consacrer librement à son art poétique et pictural, dans le plus pur style des peintres et poètes de la Chine. La poésie et la peinture sont pour lui, comme pour ses illustres prédécesseurs d'ailleurs, une voie spirituelle, celle de l'éveil à sa nature profonde, accordée au cours des choses. À la fin de l'année 1776, sa fille unique, Kuno, se marie avec le fils d'un riche marchand de Kyoto. Dans une lettre adressée à un ami, Busson écrit « Pour cette occasion, j'ai entretenu 34 invités dans la maison, parmi eux quelques-unes des meilleures joueuses de koto de tout Kyoto, ainsi que 5 ou 6 danseuses professionnelles. Avec toutes les femmes charmantes présentes, notre banquet a duré jusqu'à l'aube. » Le 13e jour du 12e mois, Busson adresse à son ami Nobotoshi la lettre suivante. Ce mois-ci, ce vieillard stupide a arrangé un mariage pour sa fille. Cela l'a beaucoup occupé. Je n'ai pas composé le moindre poème. Les jours ont passé sans que je produise quoi que ce soit. Mais puisque s'annonce un avenir heureux pour ma fille et que la maison où elle part semble digne de confiance, mon vieil esprit se trouve rasséréné. Après le nouvel an, je serai beaucoup plus libre. Aussi, le projet de me rendre à Yoshino avec mon bâton de pèlerin habite déjà mon esprit. J'ai aussi l'intention d'aller à Naniwa, où j'aimerais te retrouver, le cœur libre de tout souci. À parcourir les avenues de la gloire et du profit, à me noyer dans l'océan du désir, je me suis tourmenté et j'ai épuisé ma vie. Il va sans dire que les choses sont particulièrement tumultueuses le dernier jour de l'année, quand les gens s'affairent en tous sens et discutent à tout propos. Une agitation dérangeante. Mais comment un être comme moi pourrait-il échapper aux manières poussiéreuses de ce monde? Assis dans un coin, récitant en moi-même, l'année touche à sa fin. Je porte toujours mon chapeau en bambou et mes sandales en paille. Mon esprit soudain devient clair. Mener une vie semblable est une inépuisable vertu et ce poème de Bachot recèle le grand repos de l'éveil. Le maître Bachot parti, il n'y a plus personne pour nous dire que l'année se termine et qu'une nouvelle année va commencer. Depuis que Bachot nous a quittés, l'année n'a pas encore touché à sa fin. Depuis que Bachot nous a quittés, l'année n'a pas encore touché à sa fin. Un jour, Busson rend visite à son ami le poète Gyotai à l'ermitage de l'Illusion sur la rive sud du lac Biwa où Bachot a séjourné en été 90 années auparavant. Des glands dans un plateau rond. D'autres fois, j'entends le bruit. Des glands dans un plateau rond, d'autres fois, j'entends le bruit. Au nord-est de Kyoto, au pied du mont Hiei, se trouve le temple zen Kanpoku-ji, dans le domaine duquel est sise une petite cabane montagnarde où Bachot semble-t-il a séjourné. On a coutume d'ailleurs de l'appeler la hutte de Bachot. Busson aime beaucoup cet endroit et s'y rend dès qu'il en a l'occasion. La vieille capitale s'étend juste en dessous, mais elle est cachée au regard par une dense végétation de pins, de camphriers géants, d'arbustes, de fougères. Le site du temple est abrité des vents froids du nord et de l'est par les versants du mont Hiei et bénéficie d'un ensoleillement généreux au sud et à l'ouest. Cette situation privilégiée fait que les azalées y sont en fleurs durant une grande partie de l'année et en face, de l'autre côté de Kyoto, se découpent clairement les sommets enneigés des montagnes. Busson écrit au pied du mont Yei, au sud-ouest. Dans le village d'Ichishoji, il y a un temple zen, le Kompokuji. Les gens l'appellent le temple de la hutte de Basho. Près d'un escalier d'une vingtaine de marches par lequel on accède au sentier qui gravit le mont, il y a une butte connue comme étant l'emplacement de la hutte de Basho. Dans cet endroit recouvert d'une mousse verte recelant des traces de pas d'il y a 100 ans, règne la quiétude et la sérénité. On a l'impression que dans la forêt sombre de bambou traîne encore la fumée de la bouilloire à thé du maître. L'eau coule, les nuages sont immobiles, dans les arbres antiques, les oiseaux dorment. Devant ce spectacle monte la nostalgie de jadis. L'endroit n'est pas très éloigné du centre de la capitale, de la lutte pour le renom et le profit. Pourtant, le paysage exclut complètement la poussière de la ville. Des poules et des chiens s'interpellent de l'autre côté de la clôture en bambou. Un sentier de bûcherons et de bouviers passe devant le portail. Tout près, il y a une petite cabane où l'on peut acheter des pâtés de soja et un peu plus loin, un échoppe qui vend du saké. Il est commode de s'y approvisionner pour quiconque vient passer ici une demi-journée afin de jouir de la quiétude. Quand et pourquoi a-t-on commencé à l'appeler la hutte de Basho? Chaque fois que j'ai interrogé un garçon qui coupe les roseaux ou une femme qui bat le blé, ils ont pointé le doigt vers ici en disant que le nom devait être ancien, mais ignorait pourquoi on l'appelait ainsi. J'ai fini un jour par apprendre qu'autrefois vivait dans le temple un moine nommé Teshu, qui avait construit là une hutte en herbe où il menait une vie humble, faisant lui-même sa cuisine et sa lessive. Auprès des éventuels visiteurs, il s'excusait de ne pas sortir et restait caché à l'intérieur. Lorsqu'il lisait les poèmes du vieux maître Basho, ému aux larmes, il comprenait combien est précieux cet état où, détaché du monde de poussière, on parvient à l'éveil. Le jour où Basho, dans ses pérégrinations, passa au pied du mont Yei, après avoir secoué la brume matinale de ses manches en chanvre, il regarda le paysage du lac Biwa avec les mêmes yeux contemplatifs que le poète Dofu. Apercevant Karasaki, il composa son poème sur l'image floue des pins au loin, atteignant à l'apogée de sa poésie. Pensant que l'endroit convenait à son intention de déambuler autour de Kyoto, sans doute venait-il de temps à autre s'y reposer sur un rocher. Quand, après avoir composé son dernier poème, « Mon rêve erre sur la lande flétrie, le maître mourut », le moine Teshu, affligé, baptisa sa hutte en herbe la hutte de Basho, en hommage à l'art du vieux maître. Dans cet endroit si beau, le nom précieux de Basho est donc conservé. Pensant qu'il serait sacrilège de l'abandonner, j'en ai parlé à des amis. Ils furent du même avis que moi. Aussi, dans l'intention d'honorer le grand art du vénérable poète, avons-nous décidé de reconstruire la hutte en herbe et de nous retrouver ici sans faute chaque année au début du 4e mois, quand arrivent les coucous, et au 9e mois, quand brament les cerfs. L'intérêt de Yosabu Son pour Basho se manifeste aussi dans ses peintures. À l'automne 1776, il édite un album illustrant le fameux journal de voyage de Basho, L'étroit chemin vers le nord profond. Ses illustrations sont faites dans le style dit Aiga, prolongement pictural du haïku, caractérisé par la familiarité du sujet, un coup de pinceau léger et un humour dans la tradition zen, manifestant le détachement envers la vie mondaine. Busson devient bientôt le maître de ce style qu'il pratique même dans ses portraits des maîtres du haïkai. Busson, en parfait épicurien taoïste, accordé au cours des choses, qui vit maintenant dans une maison confortable à Kyoto, profite pleinement des plaisirs de sa vie frugale. Chaleureux et sociable, il aime les réunions entre amis pour boire et composer des poèmes, et apprécie par ailleurs la compagnie des jeunes Meiko, les courtisanes. Il entretient même un rapport intime avec une geisha prénommée Koto, qui participe aux réunions poétiques du groupe Yaantei. Son entourage, amusé par la romance, observe la chose avec bienveillance. Au début de l'été 1777, Busson apprend que sa fille, Kuno, rencontre des difficultés conjugales. Très contrarié par la situation de sa fille, qui, issue d'une famille d'artistes, n'a su s'adapter à une famille de marchands jusqu'à en tomber malade, il la fait divorcer et la ramène dans la maison familiale. Kuno recouvre bientôt la santé et Busson, rassuré, peut reprendre le cours de ses activités artistiques. À la fin de l'automne, il se rend au temple Kompuku, retrouver d'autres poètes pour dédier une stèle à Basho. Durant l'été 1778, il termine un rouleau illustrant le journal de voyage de Basho, voyage d'un squelette exposé aux intempéries, et un autre rouleau consacré à l'étroit chemin vers le nord profond qu'il considère comme le chef-d'œuvre de sa carrière de peintre. Nous sommes au printemps 1782. Busson se rend au mont Yoshino, à 20 lieues au sud de Kyoto, célèbre pour ses cerisiers en fleurs. Le jour où je quitte Yoshino, le vent souffle en rafale, les fleurs des cerisiers de tous les monts s'envolent, ne laissant aucune trace du printemps. Avalant les nuages, exhalant des fleurs, le mont Yoshino. Avalant les nuages, exhalant des fleurs, le mont Yoshino. Au retour de Yoshino, Busson compile un recueil de haïkai de ses amis et disciples intitulé « Fleurs et oiseaux ». Le cœur du livre est un recueil de 85 haïkus sur les fleurs de cerisier pour lequel il compose la calligraphie et les illustrations. Réclusion hivernale. Au fond du cœur, le mont Yoshino. Réclusion hivernale. Au fond du cœur, le mont Yoshino. Voilà, c'était la première partie de cette émission consacrée au grand maître du haïku, Yosa Busson. L'intégralité du texte de cette émission, vous le retrouverez dans l'un de ces superbes livres publiés par les éditions Mundaren, des livres reliés à la chinoise pour la plupart. Ce livre s'intitule « Busson, maître de haïku, le parfum de la lune » et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de notre grand maître Busson. Thank you.